bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Cagno 102.2 et maintenant c'est le début d'Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours le 102.2 Radio Canu et maintenant on va débuter Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Je laisse la parole pour les annonces.
Et on démarre pour les annonces.
Donc oui, première annonce, donc à Dijon le 24 et le 25 mars, il y aura un week-end justice et vérité pour Adama et contre les violences policières. Donc alors le programme, c'est ça commence mercredi 22, donc à 20h il y aura une projection de film « Braves gens, n'ayez plus peur ». Au cinéma Eldorado, donc au 21 rue Alfred de Musset, donc à Dijon. Ensuite, vendredi 24, à 16h, il y aura une discussion avec la famille Traoré et les proches d'Adama à la maison phare de, à la maison phare de Fontaine-Douche, donc 2 allée de Grenoble à Dijon, toujours. À 20h, il y aura un concert hip-hop aux Tanneries, donc avec l'Instru, Kate Crow, Napalm, Moon et RPF. Donc au 37 rue des Ateliers à Dijon toujours. Et le 25 mars, une manifestation avec la famille d'Adama à 14h place Wilson.
Donc voilà, oui, ça, c'est un peu la suite donc, où ils essayent de sortir un peu de Paris, de faire des manifs un peu partout, de soutien un peu dans toute la France. Et si vous êtes sur Lyon, le même jour là, que la manif à Dijon, le 25 mars, il y a aussi une manifestation pour la liberté de circulation et pour dire aux migrantes et aux migrants qu'ils sont les bienvenus. Alors cette manifestation est organisée par le collectif de soutien aux réfugiés et aux migrantes de Lyon, dont fait partie la CGA. Donc voilà, donc on participe à ça. On va être présent du coup samedi après-midi, le rendez-vous. C'est 15h, place des Terreaux, pour une manifestation qui ira en direction de la place Bellecour. Donc on vous donne rendez-vous dans notre cortège pour samedi. Et je vous donne juste du coup les demandes, enfin du coup ce que demande ce collectif-là globalement. Donc elle est contre les politiques migratoires meurtrières, pour le démantèlement de Frontex. Donc Frontex, c'est la fameuse police migratoire européenne. Donc qui surveille les frontières et intercepte les migrantes et les migrants. Pour que le budget consacré à la chasse aux migrantes et migrants soit consacré à leur accueil. Pour respecter la libre circulation des papiers pour toutes et tous. Pour respecter le droit d'asile et abroger l'accord de Dublin. On explique, l'accord Dublin, c'est quand vous arrivez dans le premier pays européen, si vos empreintes sont prises dans ce pays-là, vous êtes obligé de faire votre demande d'asile là-bas. Et si vous allez dans un autre pays pour faire une demande, on vous renvoie dans votre premier pays d'arrivée. Donc voilà, et pour la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance de tous les jeunes mineurs isolés et le droit à l'enseignement pour tous et toutes. Donc voilà, on vous donne rendez-vous du coup ce samedi 15h place des Terreaux dans notre cortège. On aura sûrement un cortège commun avec Alternative Libertaire et la CNT. Donc voilà, on vous invite à venir dans ce cortège rouge et noir pour animer cette manifestation. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de manif sur le sujet. La dernière, ça remonte au mois d'octobre, je crois, ouais. 2016, il me semble, ou septembre ou octobre 2016, je suis
et
pas sûr.
Il y a eu un rassemblement, mais voilà. Manifestation, ça remonte à un bon moment.
Donc forcément, à pas faire aussi bien qu'en Espagne, je sais plus si c'était à Barcelone ou à Madrid, où il y a eu 450 000 personnes, voilà, mais ce serait bien quand même qu'il y ait, si on pouvait être un bon petit millier, ce serait cool de voir un peu plus, mais ça, on verra bien samedi. En tout cas, on vous invite du coup à passer l'info et est-ce qu'il y a un maximum de monde qui vienne samedi. Si vous êtes plutôt sur Lille, il y a un week-end de mobilisation pareil, c'est samedi et dimanche. Donc voilà, avec je vous laisse aller voir sur Paris Info notamment. Voilà, c'est par rapport à la campagne présidentielle, aux violences policières, voilà, notamment pour Adama, Rémi Amine, Ziad Bouna, etc. Donc je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil. Donc c'est 25 et 26 mars à Lille. Et si vous êtes du côté d'Annecy, Haute-Savoie, Du coup, il y a une projection débat qui est organisée par le groupe de Haute-Savoie de la CGA, une projection qui s'inscrit dans le cadre du cycle consacré au mouvement révolutionnaire espagnol de 36, avec le documentaire projeté qui sera Sueños Colectivos, Rêve collectif, donc le documentaire qu'on passera sûrement à la plume noire aussi très bientôt. Donc voilà, cette projection permettra du coup de lancer le débat sur la pédagogie du point de vue libertaire. Donc c'est le 29 mars à partir de 19h45 et c'est à l'Alter Local. Il y a un site, hein, www.alterlocal.org. Allez y jeter un petit coup d'œil. Et puis dernière petite annonce, ça se passera à Montpellier et à Toulouse, organisé aussi par les groupes locaux de la coordination des groupes anarchistes, avec un débat sur les élections. Alors sur Montpellier, on verra tout à l'heure, parce qu'ils ont sorti une petite brochure, on y reviendra dans le cours de l'émission. Voilà, une petite brochure qui va servir de base à la discussion, c'est pourquoi nous ne votons pas. Et du côté de Toulouse, c'est une discussion organisée en collaboration avec Alternative Libertaire. Ça se passe donc vendredi soir 19h30 à La Chapelle, sur Toulouse, voilà, pour débattre et échanger sur les questions des élections, de l'électoralisme et des luttes à mener pour arriver à nos fins. Donc voilà pour les annonces.
J'en ai une dernière. Du coup, c'est pour encore une activité de la CGA organisée en collectif avec un squat qui s'appelle l'ULP ou l'UPL, c'est l'Université Linguistique Populaire ou Populaire Polyglotte. Linguistique.
Polyglotte, UPP. Université, ouais, je crois.
Ah oui, ouais, exact.
Populaire Polyglotte.
C'est ça. Du coup, voilà, ce sera à Clermont-Ferrand. Je ne connais pas l'adresse, mais c'est pas grave, voilà. Ça commencera à 20h, il me semble, et du coup, ce sera une soirée sur le thème féministe avec des jeux, débats, projections, spectacles de danse, mix, concerts, tout ça. Donc voilà.
À Clermont. Clermont. Il y a plein de choses à faire ce week-end, un peu partout en France. On enchaîne du coup après les annonces.
Oui, donc
assez gênant en plus.
Ouais, donc maintenant, donc un titre sur le lycée Douaneau, du coup, donc qui la grève est donc terminée aujourd'hui, me semble, mais la lutte continue. Donc une délégation composée de personnel enseignant et vie scolaire, de parents d'élèves du lycée, ont été reçus dans la matinée à la préfecture par deux conseillers du gouvernement et l'inspecteur d'académie adjoint. Donc c'était hier le 21 mars. Cette audience a permis d'insister sur la nécessité de débloquer des moyens provisoires pour la vie scolaire et sur l'importance d'abonder encore la donation horaire globale au-delà des moyens alloués la veille en audience au rectorat, qui ne permettent pas d'envisager sereinement la rentrée prochaine. Si dans l'après-midi, les personnels ont décidé d'arrêter leur mouvement de grève, ils suivront jusqu'à la fin de l'année scolaire l'évolution du dossier avec la plus grande vigilance. De nouvelles mobilisations sont déjà envisagées lors de la phase d'ajustement, donc en juin ou à la rentrée. Si les moyens nécessaires ne nous ont pas été alloués pour garantir des conditions d'apprentissage dignes à nos élèves. De nouveau en grève à plus de 70% ce mardi 21 mars, les personnels ont sollicité une audience auprès de M. Hollande et de Madame Vélo Belkacem. En visite, donc qui était en visite à Vaux-en-Velin ce mardi. Donc la délégation reçue par Monsieur Prochasson, conseiller d'éducation auprès du président, Monsieur Tournier, conseiller en charge du premier degré de l'éducation prioritaire, et Monsieur Bidet, adjoint au DASEN, ont reconnu la situation particulière du lycée Robert Douaneau et ont déploré que les lycées soient à l'heure actuelle les oubliés de la refonte de l'éducation prioritaire. Ils ont confirmé les avancées annoncées la veille par le rectorat. Limitation à 30 des effectifs de seconde et de première en STI 2D. Limitation des effectifs globaux du lycée à 750 élèves. Ajout de 9 heures de poste pour les DHG. Je sais pas ce que c'est, DHG.
Joker.
Je sais pas. De la rentrée 2017, donc alignement du nombre de postes d'AED sur les dotations des collèges et des lycées professionnels pour la rentrée 2018, garantie d'une journée de présence supplémentaire avec de l'assistance sociale du lycée. Donc Monsieur Coutureau, ça je galère avec les noms, inspecteur académique, s'était engagé lors de l'audience de lundi à prendre en considération tous les points de blocage restant dans la DHG, en particulier dans les dispositifs d'aide aux élèves, donc le redoublement, les tutorats, etc. Les personnels resteront extrêmement vigilants quant à la mise en œuvre d'effectifs des engagements qui ont été pris. Par ailleurs, l'audience de ce matin a permis de faire entendre les autres revendications nécessaires au bon fonctionnement du lycée. Donc 40 heures postes supplémentaires sur la DHG pour maintenir l'ensemble des dispositifs d'accompagnement et de dédoublement, 3 postes d'AUD supplémentaires ainsi qu'un demi-poste de CPE. Si l'équipe éducative a le sentiment d'avoir été écoutée, elle n'a toutefois obtenu aucun engagement officiel sur ce dernier point. Donc il a fallu 6 jours de grève, la mobilisation des parents d'élèves qui accompagnent les personnels de délégation en délégation depuis des semaines et des lycéens pour que commencent à être entendues les revendications dont la légitimité a été reconnue par l'adjoint au DASEN. Afin que cette situation ne se répète pas et que l'équipe éducative puisse accomplir sereinement sa mission auprès des élèves, les personnels continuent de revendiquer le classement en éducation prioritaire des lycées, qui, du fait de leurs caractéristiques sociologiques, nécessitent un accompagnement particulier et renforcé. Ils continuent à s'inscrire dans le mouvement « Touche pas à ma ZEP », lancé depuis le mois d'octobre 2016 par de nombreux établissements. Ils sont également solidaires de tous les établissements de l'Académie de Lyon qui bénéficient du classement éducation prioritaire ou non et qui se mobilisent pour que les moyens nécessaires leur soient attribués à la rentrée prochaine. Les LP, Béjuy et Seguin, donc les lycées professionnels, les collèges Gabriel Rousset, Jean Massé, Maurice Leroux et le lycée Chaplin, etc. Donc voilà.
En fait, faut quand même rappeler que c'est un truc qui est depuis un petit moment déjà mis en place par le rectorat. C'est des suppressions de postes sur tous les lycées dans la région lyonnaise au niveau de tout ce qui va être AED, AP ou AVS. Et en gros, la réponse du rectorat au lycée, c'est de leur dire que dans les lycées, il n'y a pas besoin de tant d'AED que ça, parce que les élèves sont grands et ils savent très bien se prendre en charge et que du coup, il faut mettre plus d'AED dans les collèges. Sauf qu'en fait, déjà, ils n'en mettent pas plus dans les collèges et ensuite, ils suppriment des postes dans les lycées, ce qui fait qu'on se retrouve avec des vies scolaires qui fonctionnent complètement à la ramasse et c'est juste pas possible. Et par rapport au mouvement Touche pas à ma ZEP, en fait, c'est en rapport à toutes les zones de REP et de REP+, qui ont été déclassées. Ce qui fait qu'ils ont perdu en fait des postes parce que les REP ont des postes en plus et du coup la solution du rectorat pour économiser un peu de fric c'est de déclasser les bahuts de ZEP pour avoir plus cette obligation du coup de leur donner des postes en plus. Alors déjà qu'en fait les AED touchent pas la prime de ZEP contrairement aux enseignants et à tous les autres personnels, donc ça en rajoute sur la précarité et la difficulté de ce genre de postes.
Et du coup, tu peux rappeler ce que c'est AED rapidement.
Les AED, c'est les surveillants, les pions.
Ouais, les ZEB, donc c'est ouais, zone d'éducation prioritaire.
On emploie beaucoup de sigles ou acronymes comme ouais. Ça, il faudrait peut-être qu'on explique. Ouais.
Les AP, c'est les assistants pédagogiques, et les AVS, c'est les assistants de vie scolaire. Mais en fait, tout ça, c'est des statuts qui avant étaient un statut unique et qui petit à petit sont divisés en plusieurs formes de statuts pour rendre ces postes encore plus précaires. Du coup, c'est un moyen aussi pour le rectorat de pouvoir supprimer plus de postes en disant, mais vous voyez, par exemple, on vous a donné plus d'AVS, sauf que les AVS vont juste travailler avec quelques élèves pour leur faire du soutien scolaire ou du soutien en cours, et pas du tout dans les vies scolaires ou sur tous les autres temps en fait de la vie du lycée. Donc c'est des postes différents. Ce qui fait que les AED vont se retrouver à faire juste un espèce de boulot de flicage ou d'administration, ce qui n'est pas normalement leur fonction. Et qu'en plus ils sont pas du tout en nombre suffisant pour pouvoir l'assurer correctement quoi.
Ok.
Du coup pour enchaîner avec un petit peu la même thématique, moi j'ai un article de Rue 89 qui parle de la venue de François Hollande hier, donc mardi 21 mars à Vaux-en-Velin. Donc c'était une des étapes de son petit tour de France. Il s'est rendu...
Son petit tour d'adieu.
Oui, voilà, c'est ça, son marathon d'adieu. Du coup, il est venu avec Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation. Ils sont venus à Vaux-en-Velin pour y célébrer les 40 ans de la politique de la ville. Et du coup, en fait, pour montrer que les mesures prises par l'État, le rectorat, tout ça, sont en fait pas vraiment top, comme viennent de l'expliquer mes camarades. Les profs étaient en grève. Donc du coup, je vais vous lire l'article. Dans son marathon d'adieu, François Hollande fera étape à Vaux-en-Velin dans l'Est lyonnais. Une journée chargée en perspective, après une déambulation dans les rues à la rencontre des citoyens, il sera en duplex avec l'astronaute Thomas Pesquet en direct de l'ISS au planétarium de la ville.
Bon, oui, c'est un planétarium à vous en plein. Du coup, ouais.
Voilà, pourquoi pas. Mmh. Accompagné de la ministre de l'Éducation Najat Vallaud Belkacem, le chef de l'État inaugurera l'école primaire René Bovry. C'est le premier établissement scolaire construit en dur sur la commune depuis 30 ans. Occasion en or pour les enseignants grévistes. Si François Hollande et sa ministre seront accueillis par Hélène Geoffroy, ancienne maire de Vaux-en-Velin, qui a quitté sa fonction pour rejoindre le gouvernement et devenir secrétaire de l'État à la ville, un autre comité d'accueil se prépare. Les professeurs des lycées et collèges de l'agglomération comptent profiter de la présence des deux élus pour faire entendre leur mécontentement. Le personnel du lycée Douaneau, comme on en a parlé tout à l'heure, en a d'ailleurs profité pour demander une audience auprès du président et de la ministre de l'Éducation. Dans un communiqué du 20 mars, les personnels grévistes écrivent « Si la jeunesse était une des priorités du quinquennat de M. Hollande, force est de constater que les élèves de notre lycée ne voient toujours rien venir. Ces jeunes vivent comme une injustice la situation qui est faite à leur établissement. » La Ligue des droits de l'homme de Villeurbanne se joint à ce mouvement et dénonce dans une déclaration du 18 mars une baisse de moyens et des effectifs de classe en constante augmentation. Depuis deux semaines, une série de grèves touche les lycées de la banlieue lyonnaise, Douaneau à Vaux-en-Velin, Marc-Séguin à Vénissieux. Les revendications portent également sur le manque d'aide aux écoles et collèges classés REP+. Donc voilà, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Pendant ce temps, Gérard Collomb s'exile à Paris. Le chef de l'État ne risque pas de croiser la route du président de la métropole de Lyon. En effet, il sera parti à Paris pour honorer plusieurs rendez-vous, selon le Progrès. Il participera notamment aux 50 ans du groupe Ogic, filiale de Norbert d'Entresangles, et à une visite privée d'une exposition au centre Pompidou. Gérard Collomb n'a jamais eu beaucoup d'égards pour les ministres du gouvernement de François Hollande, prompt à tenir un rôle critique et distancié par rapport aux instances nationales et parisiennes, qu'elles appartiennent à sa famille politique ou non. Fervent macroniste, il est actuellement plus occupé par la campagne du candidat hors PS. Voilà, voilà.
Et on va bientôt s'approcher de la première pause musicale, mais juste par rapport, du coup, vu qu'on était un peu à parler de tout ce qui était éducation et des problèmes des assistants d'éducation juste avant, je rajouterais juste que le collectif AED de la CGT Éducation organise une assemblée générale le mercredi 29 mars à partir de 14h à la Bourse du Travail, justement pour voir comment c'est possible, ça serait possible de s'organiser pour tous ces postes super précaires de l'éducanat et voir ce qui serait possible de faire ensemble, collectivement, pour un peu y pallier. Donc je crois que quelqu'un doit présenter la musique.
Ouais, pour la petite pause musicale, alors en fait c'est un collectif anticapitaliste d'Afrique du Sud qui s'appelle SOS Anticapitaliste Collective. Donc c'est un collectif qui a tendance à faire des...
Pas le NPA, hein, c'est plutôt des anards.
Oui, non, c'est plus. En fait, c'est un mélange d'anarch et de marxiste, mais pour la plupart, c'est pas mal d'anarchistes qui font des tournées dans les ghettos en Afrique du Sud, donc dans des endroits dans lesquels il y a beaucoup de personnes illettrées, et qui font des concerts de rap, et qui sont mix, etc., sur des bases anticapitalistes et révolutionnaires, et qui est assez proche d'une organisation que nous, on connaît bien, en tout cas, en tant qu'anarchistes sociaux, c'est Zabalaza, voilà, qui veut dire lutte en Sawali, je crois. Voilà,
allez, c'est parti.
Just don't ezandleni kodwa bafika ngexesha lothanda xa sinengxaki ekuhlaleni mna istrugle ndiyasiphila ingxaki zonke ndiyasifila umhla nezolo ndilala nesinqala ndilila xana kugumbi fanele kuxhoza mphinde wum kaloku sikwanga amaxhobo ngonja ngabakwantsasana zulumke ezo nto zikushiyulele ngomhlala akusekho khuseleko sithini ungakhalazi zenzo zenu zenyanyeka sithini ungaphalazi nentlungu banele manene asinakakhankalazi where is the humanity in this police brutality mnabahlali ndiyabanika umthetho thathani bona ngubani wabanika uAndres wathi thathani living in the ghetto is the survival to need my brothers and my sisters that I die up on the streets in the ghetto running away from the peace so no matter what you're doing get caught up by police in the ghetto is the survival to need my brothers and my sisters that I die up on the streets in the ghetto running away from the peace so no matter what you're doing get caught up by police aren't you sick and tired of these heads of state so called leaders and presidents telling us to jump and we only ask how high never put into consideration the lies and secrets that behind the backs they hide set yourself free from the world of politics it's just another game full of politics they tell you X marks the spot then you vote just because Mandela claimed the long walk to freedom but yet we forget the long years of undelivered services we people still await so please don't steal away just stay away from mass revolution without you hasn't begun bangendaba kwezo vabangemvaba umfazi umnyama ekhala abantwana bezinke dama iqelanyana loluntu bona besisobela impilo ndithi niyatshamza umfundo ucimeni lo mlilo thabathani imithwalo nigcwalise lo phango ngolwazi kuba indlala sisiphiwo sona kumzomsundu the truth has spoken closed wounds must be open direct action to be applied let's not compile except to live in these lies it's ghetto time the ghetto love fight back with these words scriptures decided to show this first to show the life in the ghetto cooks to culture langa nyanga went down town living in the ghetto is the survival to me my brothers and my sisters that I die upon the streets in the ghetto running away from the peace no matter what you do get caught up by police in the ghetto is the survival to me my brothers and my sisters that I die upon the streets in the ghetto running away from the peace no matter what you do you get caught up by police
yes cliche when the weak pick pain all these images of the grotesque and they plead for a break the free break always need breaks and it reaches for the pockets of the greed break you separated the people without debate and you degrade the value of the free rate who you see gang with people who being tamed with job security and trapped in the relay cyclic and concurrently corrupted oblivion corrugated into the covens of conundrums who bears the brunt of high class debauchery look into the mirror you see Kylie just zoomed in the size of your voice Mr. Inner City Dweller gives rise to my distaste of your actions now my self-esteem has ground to me cowardly reduced to being an unreasonable being
Bonsoir, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Cadu, le 102.2, et c'est toujours Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Vous avez pu entendre qu'on a un cheval dans la salle maintenant.
Et allez, on va passer au premier jet de lutte sociale. On y va.
Bien, bah, je vais vous emmener avec moi par la main en Ile-de-France, si vous le souhaitez. C'est la première région. C'est la première région de France, oui, au point de vue industriel et tout ça, donc c'est pas pour autant que les ouvriers, les ouvrières sont heureux et heureuses, puisque le 6 mars, il y avait une grève qui est quasiment passée inaperçue dans la collecte de déchets, sont les salariés de la société Oury, qui précisément se sont mis en grève sur Romainville, Bondy et Noisy-le-Sec. Ils ont bien choisi leur truc, c'est toute l'ancienne banlieue parisienne rouge. Donc une semaine pour finalement signer, au bout du compte, un protocole de fin de conflit. On appelle ça une sortie de grève aussi, après avoir obtenu 0,6% d'augmentation sur les salaires, une prime d'ancienneté quand même, et des chèques vacances à 20 euros. Et la direction Oury, ben, en fait, s'en tire à bon compte, puisque je crois que les revendications étaient un petit peu plus importantes que ça. Et de fait, ben, le ramassage des ordures ménagères a repris. À Lyon, eh ben, on en a quelques-unes sur Lyon cette semaine. C'était le 9 mars.
le 9 mars. Avec Rhône Express, c'est la navette qui assure le transport des voyageurs du centre-ville jusqu'à l'aéroport Saint-Exupéry. Elle s'appelait dans le temps, je crois, Leslie.
La navette gratuite, là, c'est ça?
Tu vas voir la suite. Cette ligne a été donnée en gestion à la société CFTA, qui fait ses choux gras avec, de toute façon, elle se fait du fric. Hein, et le syndicat Sud a envoyé un SCUD vers la direction pour une grève dénonçant les conditions de travail d'une vingtaine de conducteurs et agents et agentes de bord. Enfin, ils n'étaient qu'une vingtaine à assurer la grève sur 40. La sécurité dans le travail, c'était le thème. C'est la navette la plus chère en Europe, je vous le rappelle. Les utilisateurs et utilisatrices ont la fâcheuse tendance à reprocher aux agents et agentes le tarif qui est pratiqué sur cette ligne, qui est énorme apparemment. Je ne connais pas exactement les prix, mais...
17 euros l'aller, le retour. C'est... Alors qu'avant, il y avait un bus qui partait de Vaud, et donc ça coûtait 1,80€.
Très bien, il faut rentabiliser, toujours. Bon. Bref, le harcèlement est quotidien vers les agents et agentes, donc selon Sud. Rhône Express est une je vais faire son curriculum vitae à cette entreprise. Donc Rhône Express est une concession du département du Rhône. La société Rhône Express SAS, c'est-à-dire je me rappellerai après. Donc, qui est en même temps une filiale de Veolia Transdev et de Vinci. Donc, des gens toujours bien impliqués dans ces trucs-là. Rhône Express a délégué donc à CFTA la maintenance du service. CFTA Rhône est une filiale de Transdev. Voilà. Et faut-il que je refasse donc le cheminement? Ça serait peut-être plus prudent. SAS est une société à action simplifiée. Voilà, ça me revient. Faut-il que je refasse le cheminement? Non, je ne vais pas le refaire parce que c'est un petit peu longuet. Pour agrémenter des contrats de travail opaques et aussi des dysfonctionnements dans la billettique, apparemment. Dans la billettique. Putain, il y a de ces mots des fois. Je vais vous emmener maintenant en Martinique, c'est plus chaud, c'est mieux, avec une grève le 13 mars à la Sécurité sociale de l'île, et une grève illimitée qui dénonce les mauvaises conditions de travail et un plan d'action pour limiter les risques psychosociaux. Alors, on sait qu'il y a des suicides pas mal en ce moment qui font que, il faut arriver à ça, quoi. C'est la CFDT, la CGTM, donc je le dirai plus tard. C'est le durcissement du mouvement qui était à l'ordre du jour également. À Pointe-à-Pitre, toujours dans les îles, c'est en Guadeloupe, exactement. C'est le CHU qui était en effervescence à Pointe-à-Pitre, bien parti pour une grève illimitée et mobilisation de tous les services. La situation précaire de l'établissement est dénoncée par l'UGTG et dénoncée également les défaillances du staff. L'ARS du coin n'a pas de solution et selon les grévistes et selon l'UGTG, c'est 70 millions d'euros qu'il faut trouver pour refaire fonctionner correctement l'établissement. Enfin, les établissements. À Granville, donc dans la Manche, c'est un hôpital qui était en grève également, qui était appelé par trois syndicats. C'était le 15 mars, c'était FO, la CGT et la CFTC, ensemble, donc avec une réunion avec la DRH. Pas d'amélioration non plus dans les revendications. Temps de repas, comme le temps de travail d'ailleurs qui était en question, une prime aux contractuels et aussi aux contractuels aides-soignants d'un montant de 10%. En Loire-Atlantique, c'est le Crédit Agricole aussi là qui est menacé, du moins les 2200 salariés de Loire-Atlantique et de la Vendée. Alors le souci ici, c'est que sont des fermetures de 29 agences, donc grève. Alors pas partout les 2200, mais quelques-uns, avec l'intersyndicale CFDT, CGC et Sud, qui a appelé cette intersyndicale à une mobilisation contre le projet de la direction. Et qui souhaite quand même, l'intersyndicale souhaite quand même étudier le projet. Bon. Incompréhension aussi des syndicats et des salariés qui souhaiteraient mettre la main à la pâte dans cette réorganisation. Il y a des grèves en bloc aussi. Ah ben alors voilà, là, ma blagounette, là, je demandais tout à l'heure. Grève en bloc opératoire. Très drôle. Au CHU de Nantes, c'était le 16 mars. C'est le bloc de la plastique orthopédie neurotraumatologie. Grève illimitée avec EFO qui a mis donc la dose parce qu'il y a un manque de personnel criant. Revendication légitime pour éviter des accidents par épuisement des professionnels du secteur. Et ils réclament également du matériel. EFO rue un peu dans les brancards évidemment parce que la direction du CHU, elle est très 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 mauvaise. Les salariés subissent des contraintes, exigent respect de la charte du bloc. À Lyon encore, on y revient avec c'était le 16 mars avec une grève au pôle funéraire. Pas pôle emploi, t'allais le dire. Hein. Au pôle funéraire public de la métropole, solidaire la grève, c'était une grève solidaire ici, en soutien à un élu du personnel accusé par la direction de sabotage. Aujourd'hui, on dit plutôt dysfonctionnement. C'est une participation, donc 40 salariés sur 75. Des conditions de travail aussi ont été mises sur la table. Abandon du licenciement et dialogue social à l'ordre du jour. En fait, le pôle travaille par délégation de services publics, puisqu'il est, semi-privatisé ou demi-privatisé. Enfin, bon, bref, c'est les trucs d'aujourd'hui. Pour terminer cette première page, j'irai du côté de Orly, avec l'hôtel Chicos, le Hilton, personnel en grève, rassemblement devant l'hôtel. Alors ça a rassemblé donc les cuisiniers, agents et agentes d'entretien, de l'accueil également. Alors objet, c'est que l'hôtel doit être abattu comme un vulgaire HLM. 104 salariés à la lourde quand même, et sans réflexion, disent-elles sur leur cas. Ils et elles ne seront pas repris par le nouveau hôtel du groupe ADP, c'est les aéroports de Paris, qui suivra, donc qui remplacera cet hôtel Hilton. Alors les exigences des grévistes, c'est une enveloppe de départ. Alors le montant, on ne le connaît pas encore. La direction joue à l'usure de la grève. Des reclassements sont demandés par les grévistes. Et sur place, on pouvait trouver quand même les drapeaux de la CNTSO, de la CGT, de FO et de la CFDT. Voilà pour mes premiers jets.
Ok, j'aurais juste une petite.
Merci.
Ouais, juste une petite en plus. On avait parlé de la semaine dernière là du suicide du coup d'un agent SNCF là du coup sur Paris. Il y avait un rassemblement qui avait lieu du coup mercredi dernier. On avait dit qu'on en reparlerait si jamais on avait eu des news. Donc ce rassemblement a bien eu lieu. Il a regroupé des salariés en poste de la SNCF et d'ailleurs des chômeurs et précaires. Parfois étudiants, et donc il y avait du monde pour se rassembler mercredi dernier sur ce geste ultime de syndicalistes qui mettent à nouveau en lumière la violence de la restructuration capitaliste et la nécessité de s'y opposer. Donc vous allez chercher ça, je crois que c'est sur Parlut Info aussi, il y a le texte de l'intervention du coup qui a conclu les prises de parole lors de ce rassemblement, et donc ensuite tous les manifestants et manifestantes se sont rendus dans la gare pour rendre hommage à Edouard. Je vous laisse lire l'article, enfin la prise de parole, elle est assez chouette, assez émouvante aussi. Donc voilà, c'est un petit peu long, je ne le ferai pas ce soir. Et surtout, voilà, on va ouvrir une petite page du coup anti-électoraliste. On en fera une, je pense, à chaque émission jusqu'aux fameuses élections présidentielles
de
fin avril, parce que ça arrive vite. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure dans les annonces, donc il y a une activité et à Toulouse et à Montpellier ce vendredi soir, organisée du coup par les groupes de la CGA au niveau local. Et notamment le groupe de Montpellier va se servir de base pour ce débat d'une brochure qu'ils ont sortie, que vous pouvez trouver sur leur blog, qu'on a dû mettre aussi sur notre page réseau social, voilà, qu'on mettra peut-être aussi sur notre site.
Il est passé sur CGA Lyon, ouais.
Et que du coup, voilà, qui s'appelle « Pourquoi nous ne votons pas ?» Quel anti-électoralisme, pour quelle société. Et donc du coup c'est un petit argumentaire sur les choses qu'on peut nous dire très souvent lorsqu'on dit qu'on ne vote pas, qu'on n'est pas inscrit sur le lit ou qu'on participe pas à ce petit jeu. Donc je vais vous en lire 2-3 aujourd'hui, puis je vous en lirai quelques autres la semaine prochaine. Donc la première chose qu'on nous dit souvent, c'est « je vote car des gens sont morts pour obtenir ce droit ». C'est le truc qu'on entend assez souvent, mine de rien, et que du coup on est obligé de voter, parce que si des gens sont morts pour, pourquoi on ne voterait plus ? Ce serait ne pas leur rendre honneur.
Quel argument.
Voilà, et donc le contre-argumentaire, je vous le lis, cette affirmation peut-elle vraiment être considérée comme indiscutable ? Finalement, combien de gens sont-ils morts pour obtenir ce droit ? S'il est fait en France référence aux révolutions de 1789, 1830, 1848 et 1870, nous ne sommes que très partiellement d'accord. Les gens luttaient pour l'égalité, la liberté, mais pas pour avoir le droit de vote. À l'inverse, celui-ci a permis à la bourgeoisie, en ces temps bien agités, de perpétuer une société de classe et en détournant le peuple du choix révolutionnaire. L'obligation morale de voter a historiquement fait l'objet d'un apprentissage tout à fait réussi. Accordé par le pouvoir, le droit de vote a été concédé progressivement et avec parcimonie. Il s'agissait pour les gouvernants de donner à la population des raisons d'adhérer au système politique en instaurant l'illusion selon laquelle une élection périodique signifierait que le peuple se gouverne lui-même. Le résultat a été plus que positif pour le pouvoir puisque s'est imposé peu à peu l'idée que le système représentatif pouvait être démocratique, c'est-à-dire instituer le pouvoir au peuple. A contrario, il existe des millions d'hommes et de femmes qui se sont battus et se battent encore pour des droits sociaux émancipateurs. Le droit syndical ou mieux encore l'auto-organisation sont réprimés dans la majorité des entreprises. Le système électoral existe pour donner l'illusion de la souveraineté à la population légitime. Le système électoral existe pour donner l'illusion de la souveraineté à la population, légitimer les rapports dirigeants-dirigés et éloigner des luttes émancipatrices. Notre refus de participer aux élections s'explique par le fait que nous sommes pour un changement social émancipateur profond, mais aussi pour notre analyse de l'État. Celui-ci n'est pas une structure neutre, elle vise à se perpétuer et se retrouve toujours au service de la classe dominante. Donc mieux vaut lutter que d'élire. Donc ça, c'était un des premiers trucs qu'on se prend dans la gueule quand on dit qu'on ne vote pas. Je vous en faire trois aujourd'hui, comme ça ne sera pas trop long, je ferai le reste la semaine prochaine. Le deuxième, c'est « Je vote car je suis pour la démocratie ». Donc les élections représenteraient la démocratie, mais quelle démocratie ? La démocratie représentative, formelle telle qu'on la conçoit dans la plupart des États, en fait elle se résume à une abstraction et à une fiction basée sur une soi-disant convergence des intérêts politiques entre dominants et dominés. C'est ce qu'on appelle l'intérêt général présenté comme une évidence. Notre conception de la démocratie est tout autre, elle se caractérise par une décentralisation du pouvoir à tous les niveaux de la société, du bas vers le haut, une gestion directe et fédéraliste de celle-ci, avec un contrôle permanent des personnes en charge d'un mandat. Cette conception s'appuie sur l'idée qu'on est tous et toutes concernés par l'organisation sociale dans laquelle on vit et qu'il y a donc une part du collectif à se réapproprier. Cette conception de la démocratie se trouve à s'appliquer dans les organisations, les collectifs de lutte, par l'auto-organisation, l'action directe, les assemblées générales, décisionnelles, la solidarité, etc. etc. Et allez, je vous en fais encore un ou deux. Ouais, sur 8h37, peut-être qu'un seul. Je vote pour être représenté. Ça, c'est une chose qu'on retrouve tout le temps aussi, voilà, qu'on nous dit souvent. C'est-à-dire, voilà, si tu ne votes pas, bah, tu n'es pas représenté. Donc, en gros, si tu ne votes pas, tu fermes ta gueule et tu évites. Et tu ne peux pas donc lutter puisque tu n'es pas représenté. En votant aux élections, on donne la possibilité. En votant aux élections, on donne la possibilité à quelqu'un de nous représenter pendant un long laps de temps, comme il le veut, c'est-à-dire sans nous demander notre avis. Pour nous voter, c'est d'être dépossédé du pouvoir sur sa propre vie, c'est donner un chèque en blanc. Nous ne pensons donc pas que voter implique d'être représenté. Nous ne voulons pas déléguer notre pouvoir de décider à des spécialistes, élus ou autoproclamés. Ils prétendent tous mieux nous représenter, mais une fois élus, ne serviront que leur propre intérêt, soit celui de la classe dominante. Ainsi, voter sert à légitimer un système qui nous exploite, nous impose le salariat, la hiérarchie et nous empêche de prendre notre vie en main. L'électoralisme favorise la minorité au pouvoir. Les urnes ne mettront jamais fin à la société de classe. Elles permettent la perpétuation d'un système économique de plus en plus destructeur, pour nous comme pour les générations futures. En détruisant la planète même, le capitalisme nous tue. C'est pourquoi nous pensons qu'il est indispensable de se réapproprier le pouvoir politique. En ce sens, nous opposons la démocratie directe à la démocratie représentative. La démocratie directe est un processus de décision collectif qui se fonde sur une organisation horizontale plutôt que hiérarchique, sur le mandat impératif et révocable, ainsi que sur la rotation des tâches. Donc voilà pour les trois petits premiers argumentaires. La semaine prochaine, vous ferez donc « Je vote pour choisir qui est la tête de l'État ». Je vote pour barrer la route au FN qui est très à la vogue depuis au moins 10 ans. Je vote car je pense que c'est quand même moins pire avec la gauche. Waouh. Je vote mais ça m'empêche pas de lutter. Et enfin, je vote car c'est comme ça. On me l'a appris, il faut bien donner son avis. Donc voilà, on fasse un
peu. Il faut rappeler historiquement que déjà le vote, il était permis qu'à des gens qui avaient la possibilité de voter, c'est-à-dire d'avoir un certain revenu après la Révolution.
Les hommes aussi.
Que les hommes, que les hommes et ceux qui avaient les moyens du coup de pouvoir voter.
Oui, d'accord, ouais. Que les hommes. Et puis rappelez donc que les femmes ne peuvent voter qu'à partir de l'année 1945 quand même. Hein, bravo. Voilà. La démocratie. Et puis toujours, c'était juste pour en dire un petit mot comme
Je vous en prie.
Eh bien, on va enchaîner avec un sujet différent, mais pas si différent que ça, puisqu'on va parler de la Grèce. La Grèce où on peut rappeler quand même que justement. Aux dernières élections, c'était Alexis Tsipras qui avait été élu et qui était censé représenter l'extrême gauche et donc censé représenter le changement et qui n'est jamais arrivé. Donc avec un communiqué donc de la CGA fédérale par rapport aux derniers événements qui se sont déroulés en Grèce. L'État grec fait la chasse aux migrantes et aux migrants et à leurs soutiens anarchistes à Athènes. Le lundi 13 mars 2017, au petit matin, les forces de répression grecques ont envahi les squats Skoleio, donc qui veut dire école, et Villa Zographou, deux lieux emblématiques de la solidarité avec les migrantes et migrants et du mouvement libertaire à Athènes. Pardon. Le premier hébergeait en effet 127 personnes réfugiées et migrantes, dont une cinquantaine d'enfants. Toutes et tous ces gens ont ensuite été envoyés dans des tôles pour migrantes et migrants dont l'installation a été décidée pour la plupart par les autorités européennes. Le deuxième lieu était occupé par un collectif anarchiste depuis fin 2011 qui y proposait de nombreuses activités politiques et culturelles en dehors des rapports marchands et autoritaires. 7 camarades ont été arrêtés à cette occasion. Ces attaques s'inscrivent dans la désormais traditionnelle lignée de répression contre les lieux de vie et d'organisation ouverts par le mouvement anarchiste grec. Fin décembre 2012, début janvier 2013, l'État grec, déjà fort de l'expulsion du squat Delta à Thessalonique en septembre 2012, avait établi un plan d'expulsion qui concernait une quarantaine de lieux autogérés, organisant en parallèle une grande campagne de diffamation contre les foyers de résistance. Les squats historiques de Villa Amalias, ouverts en 1990, de Lelas Karagiani, 37, plus vieux squat de Grèce, ouvert à la fin des années 80, réoccupé depuis, ainsi que le squat Pattison 61 et Skarmaga, avait été ouvert suite au mois insurrectionnel de décembre 2008. Et la radio anarchiste 98 FM en avait alors fait les frais et c'était la mobilisation historique du mouvement anarchiste qui avait fait reculer l'État par rapport à ses plans initiaux. À l'été 2016, à l'issue du camp No Border qui s'était tenu à Thessalonique et avait permis l'ouverture de lieux d'accueil auto-organisés pour les migrantes et migrants, le gouvernement de l'autoproclamée gauche radicale Syriza avait aussi fait expulser trois squats. Orfano Trefio, orphelinat, grand bâtiment de l'église orthodoxe laissé à l'abandon, squatté et resquatté à plusieurs reprises par le mouvement anarchiste, celui de l'avenue Léo Fourou, Nikis, et le squat Ouria, liberté en arabe. Enfin, le squat Anoïsto Trito, troisième ouvert, sur l'île de Syros, était mis à sac sauvagement le mois dernier par la police et des agents de la municipalité. L'ancienne coqueluche de la gauche et de la gauche participe activement à la politique européenne d'enfermement massif et de déportation des migrantes et migrants. Il y a 2 ans, ce même gouvernement de gauche avait failli laisser crever une dizaine de prisonniers et prisonnières révolutionnaires qui ont fait 48 jours de grève de la faim pour l'abolition des lois sécuritaires et la libération des prisonnières et prisonniers lourdement handicapés. Encore récemment, au début de l'année, l'État grec enfermait un enfant de 5 ans sous prétexte qu'il était avec sa mère, militante de lutte révolutionnaire, au moment de son arrestation et provoquait la légitime grève de la faim et de la soif de ses 2 parents emprisonnés, Paula Roupa et Nikos Mazziotis. Alors qu'un autre squat anarchiste, Struga, a subi ces derniers jours plusieurs attaques de la part de la mafia pour son implication dans les luttes de quartier, le mouvement anarchiste continue de mener la résistance, sans compromission avec le pouvoir politique national ou européen ou avec les pouvoirs économiques, entreprises ou mafias. Il offre un appui politique et matériel indispensable aux milliers de migrantes et migrants coincés dans le pays. Il anime et accueille de nombreuses activités culturelles, artistiques, sportives, sanitaires et bien sûr politiques, en dehors des rapports marchands et autoritaires, permettant à de larges franges de la population grecque de mener tant bien que mal une vie digne et épanouissante. Il organise la résistance et l'autodéfense populaire dans la rue et dans les quartiers. La semaine dernière, des manifestations à pied et des manifestations motorisées ainsi que des occupations de bâtiments du pouvoir et de partis politiques ont répondu à ces attaques dans tout le pays. La coordination des groupes anarchistes exprime toute sa solidarité avec les personnes expulsées ou arrêtées, appelle à renforcer les initiatives prises par nos camarades en Grèce et à exprimer, par tous les moyens qui paraîtront pertinents, une solidarité déterminée avec les centres sociaux libres et auto-organisés de Grèce ou d'ailleurs. Les relations internationales de la coordination des groupes anarchistes.
Voilà, merci pour ce communiqué. De rien. Puis, tu ferais des petits progrès en grec.
En grec, oui.
Je pensais que mon accent espagnol, un petit peu,
pas évident,
il y a très longtemps, mais voilà. Je m'en souviens encore.
Parce que tu fais mieux en grec.
Je ne sais pas.
Je te laisse exprès celui-là.
Blague à part. Du coup, on va enchaîner sur un article, encore une fois, qui n'est pas sur le même sujet, mais un petit peu quand même, puisque cette fois-là, ça va parler du Guatemala. Donc, c'est pas un communiqué fédéral de la CGA, parce qu'on ne peut pas en faire sur tout ce qui se passe dans le monde, mais c'est une solidarité égale à ce qui se passe en Grèce, puisque du coup, ça va être sur l'incendie qu'il y a eu à l'orphelinat de jeunes filles au Guatemala le 8 mars. Donc l'article de Paris 8 Info que je vais vous lire. 43 filles brûlées vives au Guatemala, solidarité face à ce féminicide d'État. 43 adolescentes meurent brûlées un 8 mars pour avoir voulu dénoncer l'exploitation sexuelle et les violences dont elles étaient victimes au sein même de leur foyer d'accueil. Solidarité internationale pour exiger justice et vérité. Rassemblement ce mardi 21 mars à 18h. Mardi 21 mars, 18h, solidarité avec le Guatemala. La lutte pour la justice et contre les violences d'État est internationale. Ce mardi 7 mars 2017, 80 adolescentes ont fugué de leur foyer, foyer sûr, vierge de l'Ascension, pour dénoncer l'exploitation sexuelle, les viols et violences dont elles sont victimes à l'intérieur même de ce centre d'accueil pour mineurs. 60 d'entre elles ont été ramenées de force par la police nationale civile, puis enfermées à clé dans une petite pièce. Dans la matinée du 8 mars, un incendie s'est déclenché dans cette même pièce et a provoqué la mort de plus de 40 jeunes filles de 14 à 17 ans. Considérant que le gouvernement du Guatemala, en tant que responsable civil des centres de protection pour mineurs, est coupable d'un féminicide institutionnel et complice d'un réseau de traite humaine et d'exploitation sexuelle sur mineurs, considérant que les politiques internationales capitalistes, racistes et sexistes sont responsables de ce système autorisant l'achat et la violence de corps d'enfants et de femmes, considérant que la justice est indivisible, une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Citation d'Angela Davis. Nous répondons présent à l'appel des organisations féministes et associations de défense des droits de l'enfance et de l'adolescence pour former une action de mobilisation internationale devant les ambassades du Guatemala du monde entier. Ensemble, nous exigeons une enquête poussée sur les conditions de l'incendie et justice pour les familles des 43 adolescentes, une enquête poussée sur les réseaux de traite humaine et justice pour toutes les familles, les victimes de violences sexuelles, la protection immédiate des 600 jeunes survivants du centre et la considération de leurs témoignages, une restructuration totale de tout le système de protection de l'enfance et de l'adolescence en s'appuyant sur les propositions concrètes des organisations de société civile travaillant sur ce sujet. En tant que communauté internationale, nous avons le droit de rester vigilants à ce que justice se fasse et à se mobiliser pour le respect des droits humains de toutes et tous. Rassemblons-nous ce mardi 21 mars à 18h devant l'ambassade du Guatemala, 2 rue Villebois-Mareuil, dans le 17e à Paris, métro Terre, nos porte-maillots. Bon, du coup, c'est déjà passé, mais je lis quand même. Ensuite, petit texte. Elle brûlait pendant que nous marchions. L'appel à la lutte des femmes ce 8 mars 2017 fut international, que la lutte pour la justice le soit aussi. Que la solidarité internationale s'organise et que ensemble nous fassions force pour lutter contre l'impunité de cet État machiste, corrompu, raciste, capitaliste et meurtrier. Que nos douleurs, nos rages et nos haines forment les cris de celles dont les voix ont été étouffées. Pour toujours maintenant, le 8 mars sera le souvenir de ces avenirs brûlés, de ces espoirs partis en fumée, de ces sourires disparus, de ces 43 vies perdues. Que le 8 mars soit le symbole de cet ultime acte de révolte, choisir le feu à la résignation, choisir le feu à la violence, choisir le feu au silence. Ces corps d'enfants, ces corps de filles, ces corps punis d'être des femmes avant même de l'être, ces corps fondus dans les flammes sont le témoignage silencieux de celles qu'on n'écoutait pas, qu'on ne considérait pas, qu'on ne croyait pas. Dans le pays, l'air est imprégné d'une profonde odeur de chair brûlée. Et tant que justice ne sera pas faite, le pays puera la chair de ses chairs disparues. Et l'odeur se répand au-delà des murs et des frontières, elle se répand et envahit l'espace comme un murmure trop lourd. Ils pourront mettre du parfum dans les rues, dans leurs lois et leurs discours, dans leur conscience, l'odeur reviendra. Après chaque orage, à chaque pleine lune, à chaque cri étouffé d'une nouvelle victime, l'odeur reviendra. L'odeur de ces corps remuant dans les flammes, l'odeur de l'horreur sur laquelle on ferme les yeux car on ne supporterait pas de la regarder les yeux ouverts, l'odeur de l'injustice. Dans chaque flamme, dans chaque mouvement de fumée, il y aura l'âme de ces filles pour nous dire « Nous avons eu le courage de mourir, ne nous laissez pas mourir pour rien. Ne laissez pas nos sœurs, nos filles, nos nièces et toutes celles qui viendront souffrir ce que nous avons souffert. Que nos morts leur permettent la vie, la vraie, celle que nous n'avons pas connue, celle où l'on est libre, digne et respecté. Elle brûlait pendant que nous marchions. » Bon, du coup, le petit texte poétique, plaît à qui veut. Moi, perso, bon, voilà. Mais du coup, c'est tout un truc d'État. Alors moi, j'aurais bien aimé faire une minute de silence, mais bon, vu que ça alimente pas directement le racisme d'État en France et en Europe, ce sera pas fait, parce que c'est quand même 43 morts. Enfin, mortes, évidemment, par rapport aux attentats de FAF à moitié qu'on a en Europe. Enfin bon, bref, voilà. C'est pour la petite brève triste et je pense qu'on peut on enchaîne sur la pause musicale.
Non, je pense qu'on va zapper la pause musicale. Par contre, du coup,
deuxième page de lutte sociale.
On pouvait juste quand même rappeler un tout petit truc, c'est que par rapport donc à la mort de ces 43 filles au Guatemala, dans un pays voisin, il y a maintenant 2 ans de ça, il y avait 43 étudiants qui avaient disparu, emmenés par la police et par le gouvernement, et qui ont été délibérément a priori massacrés. Et ça a toujours pas été.
Il y a un rassemblement, je crois, aussi ce week-end sur Paris.
C'était à Yotsina, dans l'école normale rurale.
D'accord. Bon, lutte sociale encore, donc plus que jamais. Avec Le Mans, cette fois, avec une grève. Donc, je disais tout à l'heure, l'hôtel Hilton, mais là, maintenant, c'est l'hôtel... c'était après l'hôtel de luxe, et bien, c'est les crèches de pauvres qui étaient en grève. Tout un programme, 80 agents de la... Putain, j'ai une crampe. C'est drôle, hein. 80 agents et agentes de la ville en manifestation et une occupation du comité technique paritaire où avait lieu un pince-fesse d'élus et de directeurs. 80 personnes donc en grève sur 200 que compte la ville et pour une heure seulement. Alors le souci ici, c'est toujours pareil, hein, une nouvelle organisation du service de la petite enfance qui est vivement contestée par la FSU et la CGT, les remplacements insuffisants, le secrétariat, etc. Mécontentement encore une fois dans les crèches. À mes yeux, c'est un mécontentement encore de 19 salariés de la société Numen Satel Sidel, donc une PME de la numérisation, du coffre électronique, etc., qui bosse pour des banques. Fermeture du site donc de Bézieux et licenciement dans la foulée, alors que l'entreprise n'est pas pauvre et bosse donc pour la ville de Lyon aussi. Donc décision d'il y a un an à peu près, et transfert de l'activité sur d'autres sites, alors que celle-ci est l'activité bien sûr est à plein régime apparemment d'après les grévistes. Les 19 dénoncent ces méthodes, refusent leur licenciement, sans toutefois maintenir la grève, et exigent des indemnités à la hauteur, évidemment, de la situation, de leur situation. À Rungis, également, c'est le mine, hein, le marché d'intérêt national, et ces travailleurs sans papier, qui sont aussi d'intérêt national. Hein. Aussi, une grève d'une centaine de personnes, quand même, c'était le 16 mars, qui ont occupé une tour. Alors je dirais, pour plaisanter un peu, on va dire, c'était pas une tour de Babel, quoi, mais c'est de la tour de la Cemaris, c'est la société gestionnaire du mine en question, du marché international d'intérêt national. Il s'agit des employés, agents de sécurité, cuisiniers, nettoyage, agents du nettoyage, éboueurs, etc. Donc tous sans papier, tous et toutes sans papier. Depuis des temps immémoriaux, on peut le dire comme ça. Il y a 105 dépôts de dossiers pour une régularisation avec l'aide de l'Union départementale de la CGT du Val-de-Marne. 94 donc pour l'obtention de titres et d'autorisation à travailler. À Marseille, c'était le 16 mars, avec des débrayages organisés par EFO de 50 salariés de Aérofarm, qui fait partie de la holding Fareva. Fermeture en juin 17 prévue, rachetée en 2009, donc c'était un certain espoir qui se mettait là, qui s'installait et qui n'a pas duré. En fait, une perte du principal client de cette entreprise, leader en aérosol toute destination. La direction propose des reclassements en Ardèche et dans un pays voisin de l'Ardèche, c'est-à-dire la Russie. Alors c'est impérial, on va le dire, mais ça ne le fait pas évidemment. La société est viable selon les experts, mais pas selon la loi des patrons, patrons qui avaient exigé des efforts de leurs salariés, notamment en les mettant dans un 3x8 imposé. Ça se terminera probablement, mais il n'y a pas recherche de preneur toutefois par une lutte, donc ça se terminera par une lutte pour des indemnités extra, ultra, légales, et puis évidemment toute la suite, tout son cortège
bah, la suite, quoi, en fait. Et puis là, j'ai toute une page sur Lyon, avec d'abord Vénissieux. Il y a eu ce 21 mars une manif départementale dont l'origine vient de la CGT, du CRU. Alors le thème, bah, c'est la défense de l'industrie. C'était à Vénissieux, certes, mais aussi pour partout, quoi, en fait. Alors, halte au gâchis, des suppressions d'emplois, de la précarité, de l'exploitation, etc., etc. Il y avait à peu près entre 600 et 1000 personnes, avec aussi les retraités solidaires, hein, de toutes ces luttes, mais aussi des cadres, des techniciens, des techniciennes, pour leur journée nationale interprofessionnelle. La manif est partie de Bosch à Vénissieux pour se rendre au siège du MEDEF à Lyon. Et puis encore à Lyon, avec le 21 mars, sont les salariés d'Adoma qui est ce centre d'accueil.
Ah ouais.
Je crois que c'est tout.
Mais c'était dans toute la région, hein, dans toute la région, je crois.
Et voilà, ouais. Pour donc un centre d'accueil pour les demandeurs et demandeuses d'asile. Et une troisième mobilisation dans un laps de temps très court, vu la nécessité de la situation. Le mouvement s'étend en régional et même en national, tu disais.
Oui, il me semble. Ouais.
Et il y a eu une manif vers la direction régionale d'Adoma. C'est des gens qu'on avait invités ici, hein, c'est bien ceux-là.
Non, je crois
non,
pas.
C'est pas ceux-là. Ouais, c'est d'autres, d'accord. Et pour terminer, à Lyon, encore dans le 4e arrondissement, avec l'EHPAD Marius Bertrand, dont j'avais donné un petit aperçu de cette première grève il y a quelques semaines. Et bien là, aujourd'hui, c'est la 4e semaine, quand même, de lutte des agents et agentes. Ce sont les conditions de travail, évidemment, qui sont en question, en quelque sorte imposées par la mairie aussi. Mairie qui ne voit que la facture, et ne se soucie guère des travailleurs et travailleuses, et surtout des résidents et résidentes de ce lieu. La CGT a organisé ce mercredi, donc c'était aujourd'hui, une marche à 10h du matin, au départ de l'établissement, en espérant toucher au cœur M. Collomb et son bras à droite, qui est David Kimmelfed, maire du 4e arrondissement, et soi-disant, si mes informations sont bonnes, qu'il est le patron du PS à Lyon.
C'est ça, oui, de la Fédération du Rhône. Ouais.
Voilà, c'est voilà.
Tout à fait. C'est
et
ça.
Puis des macronistes,
les macronistes aussi,
en force.
Oui, tout à fait. Exactement.
Et voilà, donc ils commencent à faire leurs méfaits, quoi.
Du coup, tu voulais rajouter une petite lutte par rapport à ce que c'est en lien avec ce que tu
dis. Je voulais juste rajouter aussi que du coup à Rungis, il y a une grève d'environ 105 travailleurs migrants qui a commencé la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Ils ont investi le centre administratif du marché international pour demander simplement leur régularisation. Là, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on pourra essayer d'en reparler un peu plus la semaine prochaine. Je pense c'était juste pour en parler rapidement.
Il
n'y
a pas de souci. Tu veux faire vite fait là,
donc, ouais, quelques minutes. C'est très court. Donc un journaliste qui est assez connu, notamment pour c'est Gaspard Glanz. Donc il me semble que c'est le créateur de Taranis News.
C'est un journaliste de Taranis News.
Oui. Et donc qui a reçu des menaces de mort directement de policiers, de soutien de policiers, donc sur Facebook. Donc j'en lis trois vite fait. Donc des commentaires comme: il y a une balle perdue pour ces fils de pute, a tué direct, ras-le-bol, nous sommes en France et pas les anciens, auraient pris le fusil depuis longtemps. Et dans le genre aussi, c'est sa gueule de con qu'il faut diffuser, avec à la clé une prime à celui qui l'explosera. Donc voilà.
C'était par rapport en fait à l'affaire du... C'est qu'ils ont repéré en fait des personnes des renseignements généraux qui se déguisent en journalistes pendant les manifs. Et du coup, ça fait plusieurs fois qu'à Taranis, ils les dénoncent pendant les manifestations.
Ils les filment, ils les montrent.
Ouais, et donc là, ils les ont filmés, ils ont bien diffusé le visage de ce type sur Facebook, et apparemment, ils n'ont pas apprécié. Hein.
La vidéo a été vue 450 000 fois sur Facebook.
Ce qui est ouf, qu'en plus les flics là, le menacent de mort, mais avec leur pseudo perso, ils posent en uniforme.
Ouais,
en fait,
ils sont en uniforme de la gendarmerie, et il y a eu beaucoup de dénonciations sur Facebook. Facebook ne veut pas supprimer les publications.
Et sachant que c'est contre la convention de Genève, que les flics se cachent en tant que journalistes.
Ouais. Ben justement, on a pu voir pendant cette vidéo que le flic était très énervé, et il n'a pas pu en fait s'énerver de manière plus violente avec les, on dira, aux mains, parce que en fait il y avait pas mal de gens d'Amnesty International qui étaient là ce week-end pour surveiller les agissements des policiers, et donc lui il s'est retrouvé un peu bloqué.
Parce que ça c'est dénoncé depuis de longs mois au niveau international, du coup.
Et quand même, de la vidéo, un des RG du coup a craché au visage du Gaspard Glanz.
Le RG Lama, on l'appelle.
Voilà.
Voilà. C'est le coronar costal.
Et donc, est-ce qu'on peut faire un tout petit rappel des activités qu'on a?
Oui, très rapidement. Du coup, il y a la manif, en tout cas au niveau local, il y a la manif du coup de samedi, ouais, en solidarité avec les migrantes et les migrants, donc, dans laquelle on sera. On vous invite à venir dans notre cortège qu'on fera sûrement en commun avec Alternative Libertaire et la CNT. Donc, n'hésitez pas à aller chercher les drapeaux rouges et noirs et à nous rejoindre dans le cortège. Qu'on anime cette manif, voilà, qu'elle ne soit pas moribonde, voilà, qu'on anime comme il faut. Si vous êtes du côté de Toulouse, donc une discussion, enfin, du coup, une réunion publique en collaboration avec Alternative Libertaire aussi sur l'anti-électoralisme. Et c'est sur Montpellier, c'est aussi à la même date, vendredi 24, voilà, à la bibliothèque, à la librairie, pardon, La Mauvaise Réputation, rue Terral à Montpellier. On vous rappelle la petite brochure qui est sortie, du coup, que vous pouvez trouver sur leur blog, Pourquoi nous ne votons pas, et aussi sur le site fédéral et page réseau social, etc. Le dernier numéro de Résistance Libertaire, donc, est le journal de la CGA. Donc, c'est un numéro spécial, du coup, sur les élections.
Et juste aussi le mercredi prochain, donc mercredi 29 à 14h à la Bourse du Travail, pour toutes les pionnes et les pions qui sont un peu en galère dans leur boulot, il y aura une réunion du collectif AED de la CGT Éducation, mais qui sera bien sûr ouverte à toutes et tous.
N'hésitez pas, voilà, y aller non plus. Et si vous cherchez les commissions, vous pouvez nous contacter.
Et ben c'est tout, on va passer tout de suite sur le générique. Bonne soirée à toutes et à tous.
Merci.
Bonne soirée,
à la semaine prochaine.